Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un dernier coup de Borsalino pour saluer Jean-Paul Belmondo. Les obsèques viennent de s'achever en l'église Saint-Germain-des-Prés. Alain Delon était là, canne anglaise au bras. L'histoire de 9 enfants afghans isolés arrivés en France lors du pont aérien. Comment ont-ils pu partir? Quelle prise en charge en France? Rémi Brancato nous raconte. Demain, les cérémonies d'hommage aux morts du 11 septembre. Nous irons à New York. Où en est la menace terroriste 20 ans après le 11 septembre? Le secrétaire général de l'ONU s'inquiète pour le Sahel. Nous serons en direct de Tombouctou au Mali avec l'envoyé spécial de France Inter, Omar Waman. À Paris, troisième journée du procès du 13 novembre. Chaque vendredi, dans ce journal, arrêt sur audience, les faits marquants de la semaine. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, convoquée par la Cour de justice de la République ce matin, 16 plaintes portant sur la gestion de l'épidémie par le gouvernement ont été jugées recevables. Dans l'actualité encore, les courses sur abonnement, nouvelle formule dans la grande distribution. Déjà un fort parfum de campagne électorale, les bonnes feuilles des livres d'Anne Hidalgo et Éric Zemmour dans la presse. Zemmour candidat ou pas, en tout cas déjà une méthode se dessine. Et puis un ring de boxe sur le cours central de Roland-Garros. Tony Yoka combat ce soir. Les rendez-vous du 13-14. À 13h30, plaisir, nous nous arrêterons sur l'exposition consacrée à Botticelli à Paris. La commissaire Annette Benedetti est avec nous. Question sur la vie et l'œuvre de ce maître de la Renaissance, sur l'organisation d'une telle exposition, très rare. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans C'est une chanson, Jardin d'hiver d'Henri Salvador, choix du photographe Guillaume Herbeau. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Saint-Germain-des-Prés après les Invalides. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo se tenaient ce matin au cœur de Paris. La foule sort en ce moment même de l'église. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Ce matin à Saint-Germain, les admirateurs, la famille, les proches, les vedettes, Claude Lelouch, Jean Dujardin et puis l'homme jadis à l'affiche du Guépard venu saluer le vieux lion Belmondo, Alain Delon en vedette sur le parvis de Saint-Germain-des-Prés.
Oui, c'était le grand absent hier aux Invalides, le grand rival d'une vie, d'une carrière, le frère ennemi. Alain Delon, béquille au bras mais fier, rejoint par son fils. Il est resté plusieurs minutes sur ce parvis de l'église de Saint-Germain-des-Prés, acclamé par les quelques centaines d'anonymes présents. Invité le plus remarqué, mais ce n'était pas le seul. On a vu aussi, vous l'avez dit, Jean Dujardin, Claude Lelouch, Gilles Lelouch, Pierre Richard. Cérémonie dans l'intimité familiale, amicale. Muriel, la sœur de Jean-Paul Belmondo, Victor, son petit-fils acteur, mais aussi Albert Dupontel et Pierre Vernier, l'un des derniers de la bande du conservatoire, ont pris la parole pendant la cérémonie. À l'extérieur, ambiance très recueillie et très chaleureuse en même temps, des habitants du quartier, des fans, parfois les deux, et qui ont préféré venir aujourd'hui plutôt qu'hier pour un moment peut-être moins protocolaire. Corinne et Laura, la cinquantaine, se sont rencontrées ce matin.
On s'attendait à plus de gens, mais c'était parfait. Ça reste intime, c'est très bien. C'était vraiment très convivial. On voit qu'il était très aimé et tout le monde l'aime, quoi. C'est juste pour vraiment voir son cercueil, en plus de près, lui faire un dernier bisou, l'applaudir, lui dire un dernier au revoir. Et voilà. Avec pareil, ce petit côté, côté intimiste.
Et à la sortie du cercueil, il y a quelques minutes, des applaudissements très nourris, de longues minutes. Avec Bébel, c'est un bout de notre patrimoine à tous, un père, un grand-père qui nous dit au revoir. Pour conclure son homélie, tout à l'heure, Monseigneur Philippe Marseille, qui présidait la messe, a eu ces mots. « Seigneur, je ne te demande pas pourquoi tu nous as enlevé Jean-Paul Belmondo. Je te remercie de nous l'avoir donné. »
Merci Delphine Evenou en direct de Saint-Germain-des-Prés avec Virginie Lorda pour les moyens techniques de France Inter. Hier après la cérémonie aux Invalides, les admirateurs de Jean-Paul Belmondo ont pu eux aussi lui rendre hommage sur franceinter.fr. Vous trouverez des extraits du Livre d'Or. Dans la deuxième quinzaine d'août, quelques 2800 personnes venues d'Afghanistan ont été évacuées vers la France. Parmi eux, au fil des arrivées, les autorités se sont aperçues que 9 enfants et jeunes adolescents, sans aucun adulte pour les accompagner, s'étaient glissés dans les vols. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Que sait-on Rémi de leur histoire? Comment ont-ils été pris en charge?
Eh bien ces 9 mineurs sans parents sont arrivés au fur et à mesure des évacuations. Une surprise pour les autorités françaises. En fait, ces familles se sont divisées dans le chaos de l'aéroport de Kaboul, explique Alain Régnier, le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés.
Elles étaient parfois amenées à, pour optimiser leurs chances de passer une des portes de l'aéroport, de se séparer.
Alors, ces mineurs de 7 à 17 ans sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, surtout en Seine-Saint-Denis.
Il y a des enfants qui dorment très mal, il y en a d'autres qui sont hyperactifs. Donc, on est toujours dans une phase aussi de surveillance post-traumatique de ces enfants par rapport à ce qu'ils ont vécu.
Et les services de l'État s'activent pour tenter de retrouver leurs parents. Des recherches compliquées. Les voyageurs au départ de Kaboul ont parfois été mal enregistrés sur les registres. Il faut interroger de nombreux pays d'accueil. Détail Alain Régnier.
On fait de la dentelle avec nos collègues européens et internationaux pour savoir s'il n'y a pas un membre de leur famille. Nous avons eu une fratrie de 3 enfants dans ces 9. Et cette famille a pu être reconstituée parce que nous avons pu identifier la maman qui, est arrivée en Finlande.
Le père d'un garçon a aussi été identifié aux États-Unis. Il va venir retrouver son fils en France. Pour les 5 enfants dont on recherche encore les parents, les services sociaux vont tenter de privilégier le placement en famille d'accueil.
123 000 personnes en tout ont été évacuées d'Afghanistan dans la deuxième quinzaine d'août. Et hier, après une dizaine de jours d'arrêt, un vol international a quitté Kaboul, Qatar Airways, direction Doha. Un signe de plus du rôle actif du Qatar dans la diplomatie depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. À bord, il y avait des Américains, des Canadiens et des Néerlandais. Témoignage de l'émissaire de l'ONU en Afghanistan hier devant le Conseil de sécurité. Il y a des allégations crédibles selon lesquelles les talibans ont perpétré des assassinats depuis leur retour au pouvoir. Ils tiennent donc à nouveau l'Afghanistan, 20 ans après les attentats du 11 septembre. Ce sera demain matin, heure américaine. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour.
Correspondant de France Inter aux États-Unis, vous êtes à New York. Les cérémonies d'hommage aux morts du 11 septembre auront lieu sur 3 sites différents.
Oui, cérémonie d'abord à l'endroit où se dressaient les tours jumelles, évidemment, le sud de Manhattan, ici à New York, où se trouve maintenant le mémorial du 11 septembre. La matinée sera comme chaque année une lecture des noms des victimes réservée à leurs familles et entrecoupée de 6 moments de recueillement, 6 minutes de silence à chacun des impacts des 4 avions dans le World Trade Center, sur le Pentagone et en Pennsylvanie, et puis au moment de l'effondrement des tours, au coucher du soleil, plusieurs bâtiments de la ville, dont l'Empire State, seront illuminés de bleu. Cérémonie et cloche du souvenir aussi près de Pittsburgh en Pennsylvanie, au mémorial du vol 93. Et puis, cérémonie enfin au Pentagone, là où s'est écrasé le vol 77.
Et Joe Biden sera sur place. A-t-il prévu, Sébastien, de prendre la parole ?
Alors, la Maison-Blanche fait savoir que Joe Biden se rendra avec sa femme sur les 3 sites qu'on vient de rappeler dans la matinée de samedi. Il devrait appeler les Américains par communiqué, comme chaque 11 septembre depuis 20 ans. Il devrait appeler chacun à observer une minute de silence. Vous savez que la date est devenue le Patriot Day depuis les attaques. Mais il ne prononcera pas de discours, ce n'est pas prévu. Le 11 septembre, c'est d'abord le temps des familles des victimes. Ce sont elles qui sont conviées et ce sont elles aussi qui participeront à la longue lecture des quelques 2900 noms. En revanche, l'ancien président Bush sera bien présent lui aussi avec sa femme à Shanksville en Pennsylvanie et lui devrait bien prendre la parole.
Sur le 11 septembre évidemment, toujours disponible le podcast de Grégory Philips, 11 septembre l'enquête sur franceinter.fr et les plateformes de podcast. Où se situe la menace terroriste 20 ans après ? Écoutez ce qu'en dit le secrétaire général de l'ONU.
Je suis très préoccupé avec l'impact de ce qui s'est passé en Afghanistan partout où l'on combat le terrorisme d'une façon sérieuse. Et le Sahel est, à mon avis, le point faible, le plus important, qu'il faut soigner. Je crains, aujourd'hui, la capacité de réponse de la communauté internationale et des pays de la région ne soit pas suffisante face à la menace. Et je crains l'impact psychologique et réel de ce qui s'est passé en Afghanistan.
Antonio Guterres ira à l'ONU à New York, au Sahel justement en 2013. La France intervenait au Mali, en partie aux mains des djihadistes, opération Serval, puis Barkhane. 5000 soldats aujourd'hui au Sahel. Cette mission s'achèvera au premier trimestre de l'année prochaine. À terme, le dispositif sera réduit, 2500, 3000 personnes. Mission recentrée sur la lutte contre les djihadistes. Moins de travail de sécurisation des immenses zones du Sahel. Des soldats européens et les pays concernés sont censé prendre le relais. En ce moment où il est précieux d'avoir une carte de la menace terroriste à l'esprit, Omar Waman est avec nous. Bonjour Omar.
Bonjour Bruno.
Concrètement, les Français doivent quitter 3 bases au Mali, Kidal, Tessalit et Tombouctou. Et c'est à Tombouctou, ville où les djihadistes avaient répandu la terreur en 2012, que l'on redoute le plus, Omar, le départ des Français.
Oui, parce qu'à Tombouctou, les habitants sont dans leur grande, très grande majorité des tenants d'un islam modéré, un islam d'obédience soufie. Ils exècrent les djihadistes et leur islam rigoriste, islam radical. Tombouctou est aussi une ville musée historique avec ses mausolées patrimoine mondial de l'UNESCO, détruits en 2012 par les djihadistes et reconstruits à l'identique en 2016. Il y a aussi ces mosquées en terre crue du XIVe siècle. C'est une ville régulièrement la cible d'attaques des djihadistes que seule la présence de Barkhane a permis de repousser. Écoutez le pessimisme de Fatouma, une habitante de Tombouctou.
Là, vraiment, je suis très pessimiste, quoi. Je m'attends à tout. Pour moi, tout est possible, quoi. Quand vous voyez que toutes les forces militaires sont concentrées vers l'aéroport, prêtes à partir. Comme en 2012, tu te dis que bon, dès qu'il va y avoir grabuge, ils vont tous rentrer dans les avions, partir encore une fois et puis nous laisser face aux fameux djihadistes là qui vont fouetter qui ils veulent et puis enfermer qui ils veulent, marier qui ils veulent, quoi.
Alors Omar Ouaman, quelles seront les conséquences du retrait français de Tombouctou ?
Écoutez, à Tombouctou, Bruno, tout le monde est convaincu qu'une fois les forces de Barkhane parties dans les prochains mois, avant la fin de l'année, eh bien le scénario afghan va se reproduire dans cette ville qui n'a pas fini de panser ses plaies, occupée il y a moins de 10 ans par les djihadistes. Tombouctou est aujourd'hui une ville enclavée aux confins du Mali. À l'extérieur de Tombouctou, ce sont les djihadistes qui font la loi. Les routes qui la relient aux autres villes comme Gao ou Kidal sont régulièrement attaquées par les groupes armés. Écoutez, Salaha Maïga, membre de la société civile de Tombouctou.
Le départ des forces de Barkhane pour les populations de Tombouctou et du nord du Mali en général est une mauvaise nouvelle. Personne n'a encore l'envie de revivre ce qu'ils avaient vécu en 2012-2013 pendant l'occupation de notre région Tombouctou. Donc les populations de Tombouctou encore sont favorables à ce que Barkhane reste. Ici, à Tombouctou, la population n'est pas confiance à l'armée malienne. Les conséquences ne peuvent être autres que les forces qui avaient occupé peuvent encore revenir occuper la région.
Et Bruno, dans le malheur des habitants de Tombouctou, il y a aussi l'instabilité politique qui prévaut au Mali. Deux coups d'État en moins d'un an, une junte militaire au pouvoir à Bamako. C'est la raison pour laquelle ils appellent la France à reporter son départ du nord du Mali.
Omar Ouaman en direct avec nous pour France Inter. L'état de la menace terroriste en France reste très élevé, précisé cette semaine sur Inter le ministre de l'Intérieur. C'était quelques heures avant l'ouverture des procès des attentats du 13 novembre. Chaque vendredi, dans ce journal, arrêt sur audience avec l'une de nos deux envoyées spéciales qui suivront ce procès pendant 9 mois, eh bien nous prendrons le temps de revenir sur les faits marquants de la semaine. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
En direct du palais de justice sur l'île de la Cité à Paris, la troisième journée d'audience doit commencer. Au programme aujourd'hui, la lecture des faits.
Oui, le président de la Cour, Jean-Louis Périès, doit lire le rapport des effroyables faits, le détail des 8 attentats qui ont fait 130 morts, des centaines de blessés en 2 heures. Cette lecture éprouvante doit durer 8 heures ou peut-être même 9 devant l'ampleur des faits et des victimes. Il y a peu de survivants qui sont venus aujourd'hui pour cette douloureuse journée. Sur les 20 accusés jugés, les 14 présents en tout cas sont là. Au troisième jour, la lecture n'a pas encore tout à fait commencé.
Alors Sophie, on a répété ces chiffres depuis l'ouverture. 1800 parties civiles à ce procès. 1800 personnes qui demandent à être reconnues comme victimes par la justice et de nouvelles demandes ont été présentées à l'audience d'hier, ce qui a donné lieu à un débat sur le thème « Qu'est-ce qu'une victime ?»
Oui, une question très délicate. Elle a fait débat hier pour des hommes et des femmes qui se sont avancés vers la barre d'un pas lent et l'air stressé en passant devant le box des accusés. Des hommes et des femmes de tous âges, de toutes couleurs de peau, de toutes confessions. Plusieurs appuyés sur une béquille, d'autres arborant un t-shirt rock. Ils ont défilé à la queue leu-leu. Une femme émue disant qu'elle était à l'intérieur du Stade de France. Un homme expliquant qu'il était le compagnon de la mère d'une victime du Bataclan. Un policier racontant qu'il était arrivé sur une terrasse du 11e arrondissement alors qu'il était hors service et que sa tiré encore ce 13 novembre. Près de 6 ans après, il ressent encore un préjudice psychologique. Il est en arrêt maladie. Une avocate vient ensuite parler d'un couple d'architectes qui a dû ramper pour échapper aux fusillades. Mais les avocats généraux du parquet antiterroriste se lèvent pour dire qu'ils ne veulent pas minimiser, mais que juridiquement, ceux qui n'ont pas été des cibles au moment où les crimes se sont produits ne sont pas des victimes. Ils sont considérés comme des témoins malheureux, ne pouvant être partie civile. Le débat sur les personnes morales, le Bataclan, les villes de Paris et de Saint-Denis n'a pas été tranché non plus.
La personnalité qui a marqué les premières audiences, Sophie en particulier, c'est le seul des commandos qui ont semé la terreur encore vivant, Salah Abdeslam.
Salah Abdeslam, tout de noir vêtu aujourd'hui, mutique pendant les 5 ans d'enquête et qui a pris la parole de manière provocatrice aux 2 premiers jours de ce procès, dans les premières minutes, mercredi, pour dire qu'il témoignait qu'il n'y avait pas de divinité à part Allah, puis qu'il avait délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Plus tard, il s'est plaint d'être traité comme un chien en prison. Et hier, au 2e jour, Abdeslam est intervenu alors qu'il y avait justement ce débat autour des parties civiles. Est-ce que les victimes en Syrie pourront prendre la parole, a lancé Abdeslam, parlant fort, ajoutant « La sagesse veut qu'on condamne un homme après l'avoir jugé. Nous sommes présumés innocents, même si je ne cautionne pas votre justice. » Le président de la Cour l'a fermement recadré. Il a fini par lui couper le micro, lui rappelant qu'il avait eu 5 ans pour s'expliquer et que là, ce n'était pas le moment. Un président qui réussit, pour l'instant, à ne pas se laisser déborder par l'attitude d'Abdeslam. Et sur le banc des parties civiles, eh bien, les rescapés, les proches de victimes essayent de prendre du recul par rapport à ses propos.
Dernière question, Sophie. Est-ce que chacun a trouvé ses marques? Est-ce que l'organisation de ce procès monstre est en place?
Oui, globalement, je crois, avec l'immense salle d'audience construite spécialement pour ce procès où les parties civiles ont trouvé une place calmement, sans bousculade. Elles sont entourées de gilets roses pour les aider. Il y a beaucoup de salles de retransmission aussi autour où tout marche bien, à part un mini-incident à l'ouverture tout à l'heure dans l'une des salles où je me trouvais. Et puis, cette sécurité maximale qui semble parfaitement rodée avec des centaines de gendarmes, des chiens, des portiques de sécurité à passer. Mais tout s'est bien passé pour ces 3 premiers jours de procès hors normes.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris. Arrêt sur audience chaque vendredi dans ce journal de 13h et évidemment le procès au jour le jour sur France Inter, franceinter.fr et sur les comptes Twitter de nos 2 envoyées spéciales Charlotte Piret et Sophie Parmentier. Dans un tout autre registre, l'actualité judiciaire de ce vendredi se déroule également à la Cour de justice de la République, esplanade des Invalides. La CJR, qui juge les ministres pour des actes commis dans le cadre de leur exercice, entendait ce matin Agnès Buzyn, ministre de la Santé au tout début de la pandémie. C'est l'enquête sur la gestion par le gouvernement de cette épidémie. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
L'ancienne ministre est arrivée autour de 9h ce matin, Mathilde.
Oui, Agnès Buzyn fait face depuis plus de 4 heures aux 3 juges d'instruction de la Cour de justice de la République. Elle comparaît dans le cadre d'une enquête ouverte il y a un peu plus d'un an pour abstention de combattre un sinistre. Mais l'ancienne ministre de la Santé pourrait aussi être mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle doit répondre aux interrogations sur la façon dont elle a évalué, dont elle a anticipé le risque d'épidémie, sur sa gestion, par exemple, des stocks d'équipements de protection, de masques notamment. Agnès Buzyn est arrivée à pied ce matin sous les flashs en tailleur bleu ciel.
C'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement ou mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise sanitaire mondiale dont, je le rappelle, elle dure encore.
Si Agnès Buzyn est la première ministre en fonction pendant la crise sanitaire à être entendue par la justice, d'autres sont visés par les 16 plaintes retenues dans cette enquête. Édouard Philippe notamment, mais aussi Olivier Véran. Agnès Buzyn doit donc convaincre les magistrats. Son interrogatoire pourrait durer une bonne partie de la journée. Rappelons qu'elle peut échapper à une mise en examen en étant placée sous le statut de témoin assisté.
La Cour a reçu 18 000 plaintes. 16 ont été jugées recevables. Y aura-t-il d'autres convocations, Olivier Véran ou l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, par exemple? La question est importante en cette année électorale. Et il y a déjà, à plus de 7 mois de l'échéance, la présidentielle, un très fort parfum de campagne. Anne Hidalgo doit se déclarer candidate dimanche à Rouen. Interview et bonne feuille de son livre « Une femme française » à paraître mercredi dans l'hebdomadaire Le Point de cette semaine. Dans l'entretien, elle évoque l'idée d'un code du travail 2.0 à l'heure de l'ubérisation et du télétravail. Elle dénonce la façon qu'a, selon elle, Emmanuel Macron de gouverner le pays en infantilisant les Français. Le chef de l'État a beaucoup trop de pouvoir en France, estime la maire de Paris. Éric Zemmour, toujours pas déclaré candidat, lui aussi s'apprête à publier un livre. La France n'a pas dit son dernier mot. Ce sera jeudi prochain. Et là aussi, bonne feuille dans le Figaro magazine. Et cela dessine une méthode, Élodie Forêt.
Oui, une méthode qui semble emprunter bien des codes à Donald Trump. La couverture du livre d'abord. Éric Zemmour pose devant un drapeau français flottant dans le ciel, non sans rappeler une affiche de campagne de l'ex-président américain. Il y a aussi cet extrait du livre mis en exergue où le polémiste raconte sa rencontre avec une mamie américaine qui le désigne comme le Trump français. Une comparaison qui ne déplaît pas à l'entourage de Zemmour. Zemmour, on ne fait pas de copier-coller, mais oui, ils ont des positions similaires. Comme Trump, il peut parler aux classes populaires comme au CSP+. Et comme Donald Trump aussi, la méthode Zemmour, on le voit dans ses bonnes feuilles, est plutôt brutale. Divulgation des conversations privées avec Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Des propos hors contexte, invérifiables, que le polémiste utilise souvent dans un seul but, prouver que sa vision, ses idées sont partagées par le plus grand nombre. Le tout sur fond d'ambiguïté savamment entretenue. Est-ce un écrivain qui s'exprime? Est-ce un candidat à la présidentielle? Le CSA lui a tranché, ses interventions dans les médias sont désormais décomptées comme du temps de parole.
Et qui a le plus à craindre d'une éventuelle candidature d'Éric Zemmour, les Républicains ou le Rassemblement National? Chez les Républicains, c'est le congrès du 25 septembre qui doit trancher, primaire ouverte ou vote des seuls adhérents pour désigner le candidat. Dilemme pour Xavier Bertrand, il a dit et répété qu'il ne participerait pas à une primaire ouverte et il n'est plus membre de LR. Alors comment faire? Anne Souhaitemont, il a mené une opération rapprochement à Nîmes où se tiennent les journées parlementaires des LR.
Ils voulaient des preuves d'amour, les députés LR en ont eu ce matin.
Je n'imagine pas remporter cette élection présidentielle sans le soutien, sans l'aide de ma famille politique.
Après des mois de campagne en solitaire, Xavier Bertrand donne des gages, propose un pacte de non-agression, mais pas au point de revenir sur son refus de participer à une primaire.
Parce que je pense sincèrement que c'est une machine à diviser.
Pas de primaire, mais Xavier Bertrand donne rendez-vous au LR, car il le sait, il lui faudra le soutien du parti.
Vous l'avez compris, il y aura dans quelques semaines, dans quelques mois, une autre étape. Ce sont les instances dirigeantes du parti qui proposeront aux adhérents réunis en congrès d'apporter le soutien à un ou à une candidate. Cette règle-là, je la connais.
Un pied en dedans, un pied en dehors, pas de quoi rassurer les députés. Soutien de Valérie Pécresse, Robin Reda est toujours aussi amer.
Xavier Bertrand a réitéré ce matin qu'il refusait le jeu collectif qui, pour le moment, se mettait en place. On attend encore comment ce rassemblement et cette unité va réellement se traduire pour lui.
Des mots, rien que des mots pour le sceptique Julien Aubert.
Il a clairement envoyé des signaux, sauf que nous ne sommes pas dans une chanson de Dalida.
Si la grande famille de droite s'est réunie le temps d'un dîner hier soir autour de la même table, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et même Laurent Wauquiez, le chemin du candidat unique s'annonce encore long à droite.
Anne Souhaitemont anime où se tiennent les journées parlementaires LR. Didier Raoult refuse de partir rapidement de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. « Je quitterai mes fonctions dans un an », dit-il à nos confrères de BFM. En Polynésie, les hôpitaux restent saturés à cause du Covid, mais un pic a été passé. Le nombre d'hospitalisations diminue. En Martinique, le taux d'incidence du virus reste très élevé, près de 400. Depuis le début de l'été, plus de 1000 soignants sont venus en renfort en Martinique. Certains arrivés hier soir aux Lamentins ont été accueillis par les invectives de manifestants anti-vaccins à l'aéroport. Des cris hostiles captés par nos confrères de Martinique la première.
À bientôt sur les plages !
À bientôt sur les plages, sous-entendu vous venez vous dorer la pilule, vous n'êtes pas les bienvenus, paria vaccinés. Voilà pour ces échos recueillis par Martinique Première. Un incendie ce matin dans une usine de métallurgie de Pamiers dans l'Ariège, usine Aubert et Duval. Incendie dans un bac d'acide, le feu est circonscrit, les mesures de confinement ont été levées. À Marseille, le congrès mondial de la nature se termine demain. En ces dernières heures, les 5000 participants doivent publier une liste de recommandations à destination des États pour limiter l'effondrement de la biodiversité. L'une des motions sur le point d'être votée, Célia Quigret, demande un moratoire sur les extractions minières.
C'est sans doute l'une des motions les plus importantes de ce congrès. Elle demande clairement aux États de ne pas ouvrir de nouvelles mines sans tenir compte des conséquences pour la pollution des sols ou des rivières. Sébastien Moncor soutient ce texte. Il dirige le comité français de l'Union internationale de conservation de la nature.
Elle demande en fait à encadrer beaucoup plus strictement les impacts de l'industrie minière, à travailler aussi davantage dans une logique d'économie circulaire, d'arrêter d'ouvrir de nouvelles mines et plutôt de travailler sur les matériaux que nous avons déjà extraits et qu'on peut réutiliser et recycler pour répondre à la demande.
Et le but est bien de freiner certains gros projets polémiques. Jean-David Abel l'espère en tout cas. Il représente France Nature Environnement.
C'est important parce que beaucoup de mines se trouvent dans des pays pauvres ou sur des terres de peuples autochtones et qu'on vient encore une fois, une nouvelle fois, piller sans foi ni loi. Il L'idée, c'est bien de pouvoir, demain, après-demain, empêcher ou encadrer de façon très exigeante des projets d'extraction minière, que ce soit sur les territoires français, comme en Guyane avec la Montagne d'Or, que ce soit sur d'autres continents. Tous ces enjeux-là, à terme, touchent notre vie à tous.
Ce congrès a également voté un texte pour limiter la mise sur le marché de produits issus de la déforestation, huile de palme ou céréales pour le bétail.
C'est en Chine, en avril prochain, que les États examineront les motions présentées à Marseille. Un petit miracle au Liban, le Liban qui s'est doté d'un nouveau gouvernement. Selon l'agence France Presse, ce vendredi, le président Michel Aoun et le premier ministre désigné Najib Mikati ont signé le décret pour former la nouvelle équipe. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Comment se distinguer et fidéliser la clientèle? C'est une question pour la grande distribution face à la multiplication des acteurs et des modes de distribution, la concurrence exacerbée. Et une pratique se développe. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Les abonnements, on paye une somme fixe chaque mois pour obtenir des rabais réguliers et autres avantages.
Oui, c'est une nouvelle étape dans la grande distribution face à la difficulté de garder et de faire venir la clientèle en magasin avec des consommateurs qui papillonnent d'une enseigne à une autre ou achètent en ligne. Monoprix, Casino, Carrefour expérimentent des cartes d'abonnement pour leurs clients avec la promesse d'une réduction de 10 à 15% à chaque passage en caisse. Le consommateur devra en échange s'acquitter d'un abonnement mensuel de 6 à 10 euros dans l'enseigne de son choix. S'inspirant de la technique Amazon Prime, ce système d'abonnement est assurément un virage dans la relation qu'entretiennent les clients à leur magasin, explique Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
Le consommateur, une fois qu'il est abonné à une enseigne, son intérêt, c'est de plus aller ailleurs. Et en ce sens, ce sont des programmes de rétention. On veut retenir le consommateur parce que quand vous êtes abonné chez Casino ou chez Carrefour, bah, la fois où vous allez chez Leclerc ou chez Intermarché, vous allez le vivre presque comme une erreur. C'était pas votre intérêt d'y aller. Donc, ça va retenir les consommateurs dans les magasins de ceux qui proposent des abonnements. Ce sont donc non plus des programmes de fidélité, mais des programmes de rétention.
Ces cartes d'abonnement expérimentées par la grande distribution sont aussi conçues comme une arme anti-Amazon. Les réductions s'appliqueront aussi bien en ligne qu'en magasin.
Laurent, si je vous dis centrale de Roland-Garros, vous pensez à quel sport ?
Tennis peut-être ?
Eh ben non, perdu pour ce soir en tout cas. Boxe, un ring sur le court central de Roland-Garros. Tony Yoka combat ce soir contre le Croate Peter Milas. Combattre à Roland-Garros, il y a eu de la boxe jusqu'aux années 70, ça lui fait quoi ?
C'est magique quand même, on se dit on va boxer au même endroit que Jean-Claude Boutier, que Marcel Cerdan, donc voilà, c'est des grands noms du sport et de la boxe française. Ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de boxe ici et on est heureux de pouvoir nous associer nos noms à leur en tout cas. Après, comme je l'ai dit, sans prétention, ils ont été champions du monde, nous on est là pour le devenir. On a ça comme objectif et on s'est dit qu'il fallait aussi passer par des endroits comme ça, de remettre la boxe sur le devant de la scène, devant des populations qui n'ont pas forcément l'occasion de voir la boxe.
Tony Yoka sur le ring ce soir. Bon, Laurent, si je vous dis US Open, vous pensez à quel sport ?
Je reste sur le tennis.
Vous avez raison. La finale opposera deux jeunes filles chez les filles. Donc Emma Raducanu, 18 ans, et la Canadienne Leila Fernandez, 19 ans. Les demi-finales garçons la nuit prochaine. Le Canadien Ogé Aliassime face à Daniel Medvedev et Djokovic contre l'Allemand Alexander Zverev. Dans un instant, la météo, puis notre invité, la commissaire de l'exposition consacrée à Botticelli au musée Jacquemin-Randré.
Vous connaissez l'histoire de la deuxième paire de lunettes ? Celle qu'on oublie en vacances en se disant « Bof, tant pis !» Celle qu'on préfère ne pas porter, même si on n'a plus que celle-là à se mettre. Celle qu'on prend uniquement pour lire dans son bain ou aux toilettes. Eh bien, cette histoire, c'est de l'histoire ancienne.
Pendant les jours Chris, faites-vous deux fois plus plaisir avec une deuxième paire de marques offerte aussi élégante que la première. Alors rendez-vous dans votre magasin Chris. Chris, vous allez vous aimer. Offre valable jusqu'au 27 octobre 2021. Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur chris.com. Dispositif médical.
L'aventure a un visage. Sur les eaux de la mer de Chine, le profil d'un pirate bien connu se dessine dans l'ombre d'une cabine de pilotage. Corto Maltese est de retour. Bastien Vivès et Martin Kenéen s'emparent du mythique aventurier Hugo Pratt et l'emmènent des rues bondées de Tokyo aux plus hautes montagnes d'Amérique du Sud. Découvrez le gentilhomme de fortune comme vous ne l'avez jamais lu. Corto Maltese, Océan Noir. Un roman graphique Casterman à retrouver en librairie. France Inter aime...
Illusion perdue, un spectacle de Pauline Bayle, d'après Honoré de Balzac, au Théâtre de la Bastille du 13 septembre au 16 octobre. Après Iliade et Odyssée d'Homère et Chansons douces de Leïla Slimani, Pauline Bayle adapte Illusion perdue de Balzac. À travers l'ascension et la chute de Lucien de Rubempré, jeune poète de province parti à l'assaut de la capitale, Illusion perdue peint un monde hanté par l'ambition et l'appétit d'amour, de gloire et d'argent. Illusion perdue, un spectacle France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Météo encore orageuse.
Oui, du nord-est vers la vallée du Rhône, les Alpes, la région PACA et la Corse, ça reste instable avec de nombreuses averses, parfois orageuses et intenses, en particulier sur le Var et sur la Corse. L'activité va quand même se décaler au fil des heures vers l'est. Sur le reste du pays, le ciel est plus variable avec des averses, parfois de l'orage en après-midi, mais aussi des éclaircies qui deviennent d'ailleurs très belles près de l'océan, puis vers la Manche en fin de journée. On a des températures qui baissent, mais qui se rapprochent des moyennes de saison, avec 19 degrés à Cherbourg, 22 à Nancy et à Lyon, 23 à Nantes, 24 degrés à Lille, Paris et Bordeaux, 25 à Toulouse, 27 pour Marseille et 28 pour Ajaccio. Et puis un petit mot du week-end, ça s'annonce bien plus calme avec pas mal de grisailles demain matin, mais de belles éclaircies ensuite, surtout sur la moitié sud, et des températures en hausse.
C'est bien noté, merci Elodie Calac. Météo France, tout de suite, un quart d'heure de plaisir.
France Inter, le 13-14, Bruno Dijon.
Parce que dans le quart d'heure qui vient, nous serons en quelque sorte en direct de la Renaissance. Botticelli, artiste et designer, c'est une des expositions événements de cette rentrée à Paris. C'est à partir d'aujourd'hui à la Fondation Jacquemart-André. 20 ans qu'une grande expo n'avait pas été consacrée aux Florentins. Et celle-ci raconte à travers une quarantaine d'œuvres de Botticelli, ce qui est exceptionnel, la vie artistique bien sûr, mais aussi économique, politique, intellectuelle dans la Florence des Médicis. La commissaire de l'exposition est notre invitée, 01 45 24 7000, et l'appli France Inter pour vos questions sur Botticelli ou sur l'organisation d'une telle exposition qui a demandé 5 ans de travail. Bonjour Anna de Benedetti.
Bonjour.
On dispose de beaucoup d'œuvres de Botticelli sur une échelle qui irait de Vermeer. On en a très peu à Picasso, il y en a une foultitude. On a beaucoup de Botticelli dans le monde.
Alors, on a beaucoup de Botticelli. On voit d'ailleurs dans les salles de vente régulièrement, ouais, il y a un Botticelli qui apparaît. Mais ce sont des Botticelli de factures différentes, enfin de plusieurs niveaux de qualité, bien sûr. Ouais. Et c'est toute la problématique aussi de cette exposition, qui est de restituer qu'est-ce qui est de la main de Botticelli, qu'est-ce qui est de la main de ses assistants, ouais, et comment finalement ces œuvres collaboratives sont quand même des Botticelli à part entière.
Et on va revenir là-dessus. Botticelli, designer, dans design il y a dessin. Deux des œuvres majeures de cette exposition sont des illustrations de la Divine Comédie de Dante. Vasari, il y a une note comme ça dans l'exposition, disait lui que c'était un dessinateur exceptionnel.
Un dessinateur exceptionnel qui lui vient effectivement de sa formation première, qui est une formation d'orfèvre.
Oui.
Et les orfèvres, en fait, on leur demandait d'inciser le métal. Donc on ne pouvait pas s'y reprendre à plusieurs fois. Il fallait vraiment que le trait soit précis, fin, tout à fait définitif. Mmh. Et ça, Botticelli l'acquiert très tôt. Et c'est vraiment sa marque de fabrique en même temps, puisque quand on regarde aussi la peinture, on a presque la sensation d'un dessin colorié.
Oui.
Et ça, c'est très typique de cette période.
Et les dessins après sont utilisés dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les arts décoratifs. Vous montrez ça aussi dans l'exposition. Et il y a un aspect d'ailleurs économique qu'on va détailler. Ça sert pour des tapisseries, ça sert pour des meubles, ça sert pour beaucoup de choses différentes, ces dessins de Botticelli.
Oui, c'est un aspect très peu connu du grand public, cette activité de Botticelli, mais en effet, il produisait énormément de dessins. Et comme son trait était très fin, direct, linéaire, on le qualifie de linéaire en général dans l'histoire de l'art, eh bien, il était tout à fait transposable dans d'autres supports, et notamment la marqueterie, la tapisserie et la broderie, dont nous présentons des exemples dans l'exposition.
Ces marqueteries, ces tapisseries, ces broderies étaient bien sûr vendues. Ça veut dire que cet atelier avait aussi une activité économique, évidemment, et que cet aspect art décoratif en faisait partie.
Oui, alors effectivement, c'est pas Botticelli qui réalisait les broderies,
ouais,
et les tapisseries. Il donnait le dessin, et puis c'était des artisans spécialisés.
Ouais.
Alors oui, il y avait tout à fait une demande à cette époque, et oui, tout à fait.
Et une concurrence entre les ateliers ?
Ah oui, c'était un marché extrêmement compétitif. Imaginez Florence saturée d'images. Oui. Hein, il y avait des images partout. Même les harnais des chevaux étaient décorés. Il y avait des processions, il y avait des décors. Enfin, c'était une ville très joyeuse et festive. Et donc, il fallait se distinguer absolument de la concurrence. Et donc, Botticelli a vraiment excellé en ce qu'il a développé un style extrêmement reconnaissable et inégalable en même temps.
Atelier avec des collaborateurs qui amène à la question que vous avez effleurée au début de cet entretien. Qu'est-ce qui est de l'œuvre de Botticelli? Qu'est-ce qui est de l'œuvre de ses collaborateurs dans ses tableaux? Et à partir de quel moment dit-on, ça c'est une œuvre signée en quelque sorte Botticelli?
Alors c'est un jeu très complexe. Il faut vraiment se remettre dans l'esprit du XVe siècle. Ouais. Il faut complètement oublier la notion romantique 19e-iste que l'on a de l'artiste seul face à son chevalet ouais. en proie à une fureur créatrice. Non, c'est pas du tout l'esprit de l'époque. À l'époque, ce sont des ateliers ouverts avec plein d'assistants, des collaborateurs de différents niveaux. Hein. Il y a le jeune adolescent qui commence à sa formation et puis le collaborateur vraiment formé qui vraiment aide le maître à réaliser ses œuvres. Et donc, tout ce qui est dessiné, inventé, créé par Botticelli est donc considéré comme un Botticelli, même si parfois il demande de l'aide de ses collaborateurs pour exécuter par exemple la couche picturale, alors avec plus ou moins d'intervention de ses assistants. En général, le maître se réserve les parties délicates, les carnations, les personnages, enfin les figures, et puis il va déléguer les paysages, parfois les draperies un peu plus simples, à ses collaborateurs de confiance.
Et il supervise toujours, et quand il ne supervise pas, ça se voit.
Ça se voit, oui. C'est pour ça que toute œuvre de la Renaissance est une œuvre collaborative, notamment, on comprend ça très bien sur les œuvres monumentales, comme les grands retables, par exemple. Et puis, on pose la question, effectivement, à la fin de l'exposition, qu'est-ce que devient Botticelli après Botticelli, hein, puisque son atelier devait receler de trésors incroyables, des esquisses, des dessins préparatoires, que certainement ses derniers assistants se sont partagés. Et ce fameux tableau du musée Jacques Marandré, La fuite en Égypte, montre bien une ascendance botticellienne très forte qu'on reconnaît, puisqu'il y a ce style très reconnaissable. Mais la structure même du tableau laisse un peu à désirer. Et donc, il ne suffit pas d'avoir des dessins de Botticelli pour faire un dit Botticelli. Il faut aussi la main du maître, la pensée du maître.
Botticelli, inventeur du nu?
Oui. Tout à fait. Botticelli, inventeur du nu féminin. Alors, inventeur déjà des grandes scènes mythologiques, qui sont maintenant peut-être les plus connues, hein, la naissance de Vénus, le printemps. Et fidèle à sa stratégie de composition, il réutilise la figure de Vénus, de la naissance de Vénus, et la plaque sur un fond noir. Et là, il invente un genre nouveau qui est le nu féminin. Il n'a rien de comparable avant, et après, il y aura beaucoup d'émulation de ce type. On pense bien sûr au nu de Giorgione, au nu de Titien, jusqu'à Cranach même.
Où étaient-ils exposés, ces tableaux de nu, ces Vénus pudiques?
Alors, ces Vénus pudiques étaient sans doute exposées dans les villas patriciennes florentines, certainement dans un studiolo ou dans un camerino, un cabinet d'écriture, et réservées au regard d'une foule restreinte, hein, dans l'intimité finalement de leur propriétaire.
J'ai pu lire en préparant cette interview que ça faisait de Botticelli un peintre féministe, pour utiliser un mot d'aujourd'hui. Vous reprendriez cette expression, Botticelli féministe?
Alors, je pense que c'est peut-être une expression un peu trop anachronique pour l'époque. C'est en tout cas un peintre extrêmement sensible, extrêmement observateur de tout ce qui l'entourait, et il a cette idée incroyable de création. Donc, il c'est le grand traducteur des mythes dont s'entourent les Médicis. Le 15e siècle, la deuxième moitié du 15e siècle, c'est le grand retour de l'intérêt pour l'Antiquité, mais une Antiquité passer au filtre florentin. Et Botticelli excelle vraiment à traduire des concepts assez complexes en images.
Est-ce que c'était un homme au service du pouvoir?
Alors c'est difficile, au service du pouvoir, au service de ses clients, et ses clients étaient forcément partie prenante du pouvoir régent à l'époque. Florence est une république, mais nous avons les Médicis, une famille qui domine un peu, qui domine beaucoup la politique de l'époque.
Et on vit de la commande publique. Je vous dis ça parce que la dernière salle de l'exposition est consacrée à l'époque Savonarole de Florence. Ce moine très austère, qui prêchait dans les églises, et la peinture de Botticelli s'en trouve changé à l'époque de Savonarole.
Oui, il y a une vraie rupture de style. Donc, au début des années 1490, quand Savonarole commence à prêcher dans la cité et à prendre de plus en plus de place, c'est aussi la fin d'un monde, puisque les grands humanistes qui avaient été aux côtés de Botticelli pendant l'âge d'or des années 1480 disparaissent tour à tour. Laurent le Magnifique meurt, son fils est banni de Florence, et Savonarole prend de plus en plus de place avec des prêches très violents qui ne peuvent qu'avoir un impact quand même sur cet artiste très sensible.
Qui s'adapte au climat, au nouveau climat politique en quelque sorte.
Qui s'adapte à la nouvelle demande, puisque les Florentins réagissent et finalement demandent un autre style de peinture. Et Botticelli, en bon entrepreneur, essaye de répondre en changeant son style, en changeant l'offre qu'il propose donc aux Florentins.
Avec des couleurs beaucoup plus denses, des corps tourmentés sur les œuvres que vous présentez.
Exactement, une grande théâtralisation, des couleurs plus denses, plus contrastées. Et puis parfois quand même la tentation de continuer sur la grâce qui caractérise vraiment son art avec quelques œuvres que nous montrons dans cette dernière salle qui sont tout à fait uniques.
Et avec un crucifix de procession qui est peint, et peint des deux côtés en plus.
Peint des deux côtés puisque c'est un objet de procession, donc on le promenait finalement, on le transportait dans les cloîtres, autour des cloîtres, et donc il est peint des deux côtés. Et là on voit vraiment une image de toute beauté qui répond finalement au sermon de Savonarole, qui prêchait l'acceptation du sacrifice du Rédempteur et qui, au filtre de l'art de Botticelli, est une image apaisée, sublimée.
L'impact de Savonarole, on en a parlé. Je voudrais qu'on aille au Standard. Est-ce que Juliette est déjà présente au Standard? Pas encore. C'est pas grave.
Oui, c'est bon.
Juliette au Standard, bonjour.
Bonjour, voilà, je connais Botticelli pour avoir visité les musées à Florence il y a quelques années, et je m'intéresse à la peinture féminine, et je voudrais savoir si dans les ateliers de Botticelli, il y avait à l'époque des peintres féminins du style d'Artemisia, mais je ne sais pas si elle est de cette époque exactement. Voilà.
Anna de Benedetti.
Alors, on n'a pas de traces de femmes peintres à l'époque. Il faut savoir que la société était assez séparée entre les femmes qui quand même devaient rester chez elles et être de bons modèles d'épouses et de mères, et puis les hommes. Donc, c'est quand même une société relativement patriarcale. Et les femmes peintres commencent plus tard, enfin, connues en tout cas, commencent plus tard. Mais par contre, dans les couvents, dans les confraternités religieuses, il y avait beaucoup d'artisanes qui effectuaient effectivement des broderies, des tapisseries. Et bon, là, ce sont des petites mains anonymes.
Est-ce que la crise sanitaire vous a compliqué le travail pour organiser une telle exposition ?
Alors oui et non, on a été obligé effectivement de reporter d'un an l'exposition qui aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais c'est finalement une surprise puisque il y a eu un bon côté. Certains prêts, très peu, deux prêts qui n'étaient pas disponibles à l'époque, ont été rendus disponibles par ce déplacement de date, et donc c'est finalement un bonheur que ça a été déplacé d'un an.
Il y a plus de solidarité entre personnes des musées à travers le monde dans un contexte pareil.
Oui, on a vu l'année dernière, quand on a demandé de faire vraiment ce déplacement, donc de reporter tous les prêts, un élan de solidarité incroyable, et tous les musées vraiment du monde entier, d'une seule voix, ont été au rendez-vous et ont immédiatement accepté.
Encore quelques questions sur Botticelli et sur sa vie et sur sa postérité. Pourquoi a-t-il été oublié pendant quoi, 4 siècles après sa mort et avant de revenir à la mode, entre guillemets, à partir du 19e siècle? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il s'est passé que la réponse qu'il a donnée finalement à cette influence de Savonarole n'était sans doute peut-être pas celle attendue. Donc, en 1510, quand il meurt, finalement, il est très vite oublié. Et puis, il faut aussi voir que la scène culturelle, enfin Florence, qui était vraiment au centre des arts, cède le pas à Rome. Et c'est à Rome, finalement, grâce aux grandes commandes du pape, que les grands artistes florentins sont attirés, Michel-Ange, par exemple, oui. Mais aussi le jeune Raphaël, qui était passé par Florence et qui se retrouve à Rome. Et c'est donc ces deux figures, Michel-Ange et Raphaël, qui vont vraiment dominer l'histoire de l'art jusqu'au début du 19e siècle.
Et qui le sort de l'oubli au 19e ?
Alors, c'est un processus assez lent et progressif en fonction des aires géographiques et des nations. L'ouverture des offices en tant que musée donne à voir beaucoup d'œuvres qui n'étaient pas visibles au public. En Angleterre, nous avons cette grande redécouverte grâce aux pré-raphaélites qui s'inspirent réellement de l'art de Botticelli pour fonder leur nouvelle esthétique. Les pré-raphaélites, comme leur nom l'indique, se situant dans l'art avant Raphaël.
Merci Anna De Benedetti d'être venue dans les studios de France Inter. Botticelli, artiste et designer, designer, musée Jacquemart André à Paris. C'est ouvert, il y a déjà beaucoup de monde devant, me disiez-vous.
Énormément.
Eh bien, tant mieux pour vous. 13h44.
France Inter, le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
À suivre le vif de l'histoire dans une dizaine de minutes, la France et l'Afghanistan.
Une relation spéciale, autrefois.
Vous nous détaillerez tout cela. Le feuilleton, une semaine dans la vie d'Amine Kessassi, notre jeune homme des quartiers nord de Marseille qui rêve de faire l'ENA. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le Festival international de photojournalisme Visa pour l'image se tient en ce moment à Perpignan. Et parmi ceux qui ont l'honneur de présenter leur travail, il y a Guillaume Herbeau de l'agence Vue. Son expo s'appelle La Cinquième, comme la Cinquième République.
Et cette expo, c'est une plongée dans la France des derniers mois. Colère et confinement, crise sanitaire et sociale. En temps normal, ce sont plutôt des scènes de zones de conflit que montrent les images de Guillaume Herbeau. Par ailleurs, reconnu pour ses photos sur le site de Tchernobyl, il s'y est rendu plusieurs fois, et notamment en 2001, pour un reportage à l'occasion du 15e anniversaire de l'explosion de la centrale.
Mon travail, en fait, c'était d'abord d'écouter les témoignages des gens qui avaient été évacués de Tchernobyl et des victimes de Tchernobyl. Donc je passais beaucoup de temps à Kiev, dans un quartier qui était devenu un ghetto de gens de Tchernobyl, puisqu'ils avaient été évacués de Pripyat, la ville fantôme qu'on connaît aujourd'hui, dans lequel il y avait 20 000 habitants.
À 5 km seulement du réacteur numéro 4 de Tchernobyl qui a explosé le 26 avril 1986, Pripyat.
Donc dans la journée, j'écoutais des témoignages très durs. Je me souviens d'une femme qui me racontait comment son mari était mort en ayant été l'un des premiers pompiers à aller essayer d'éteindre l'incendie de la centrale et qui est mort 10 jours après d'une manière abominable puisqu'il était devenu lui-même radioactif. Donc sa femme avait pu à un moment donné rentrer dans la chambre pour l'embrasser une dernière fois. Et aujourd'hui, il est enterré à Moscou dans un cercueil de plomb entouré par du béton. Donc moi, mon travail, ça a été dans une première partie d'écouter les témoignages, de faire des photos de famille, et après, de partir dans la zone interdite, d'aller à Pripyat et de photographier les lieux où ils avaient vécu.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
Et c'est donc la douce voix d'Henri Salvador qu'a choisi de nous faire écouter Guillaume Herbeau.
Avec Jardin d'hiver, chanson de Kerenan et Benjamin Biolay, qui figurait sur son disque Chambre avec vue, un album que Guillaume Herbeau a beaucoup écouté durant ce reportage en Ukraine il y a 20 ans.
C'est drôle parce que j'étais parti avec, et j'étais pas fan d'Henri Salvador. Gamin, en fait, Henri Salvador me faisait peur dans les émissions télé avec son grand rire là. Je me disais, mais pourquoi il rit comme ça? Et avec cet album qui était sorti, je crois, en 2000, j'avais redécouvert Henri Salvador. Et j'écoutais sa musique donc pratiquement tous les jours et pratiquement tous les soirs en boucle. Et c'était beau parce que il parlait d'un temps passé. La vie d'avant, la vie perdue, l'amour perdu ou l'amour qui est encore dans les souvenirs. Et pour moi, ça faisait écho aux gens de Pripyat qui avaient vécu dans une ville qui pour eux était paradisiaque à l'époque et qui était devenue un cauchemar. Cette ville qui représentait leur jeunesse, leurs premiers amours. Et en fait, ça me faisait penser à eux. Et évidemment, ça me faisait penser aussi à ma femme qui était à Paris et que j'avais envie de voir. Et tout ça se mélangeait. Et c'est vrai que c'était un réconfort énorme tous les soirs ou dans la voiture d'écouter la voix d'Henri Salvador. Je voyais les lumières de la chanson et c'était pour moi les lumières que j'avais en face de moi à ce moment-là, au mois d'avril, en Ukraine.
Les années passent, qu'il est loin là, je tendre, nul ne peut nous entendre.
Est-ce que ça veut dire que quand vous entendez Henri Salvador aujourd'hui, vous avez les images de Tchernobyl qui reviennent?
Quand j'écoute cette chanson, j'ai les images de Tchernobyl et j'ai souvent le portrait de cette femme qui a perdu son mari de manière dramatique.
Henri Salvador, Jardin d'hiver, c'était donc le choix, Frédéric, du photographe Guillaume Herbeau.
Dans l'exposition La Cinquième, est à voir jusqu'au 26 septembre au festival Visa pour l'image à Perpignan.
Le feuilleton Une semaine dans la vie d'Amine Kessassi, dernier épisode de ce feuilleton signé Mathilde Vinceneux. Les quartiers nord de Marseille, un grand frère tombé dans le trafic de drogue et mort assassiné à 22 ans. Une rencontre la semaine dernière avec Emmanuel Macron, Amine, 17 ans, bac mention très bien, en lycée pro, une scolarité en classe prépa désormais, le rêve de faire l'ENA, futur institut du service public, et l'envie de changer le monde avec son association Conscience, entre autres. Cette envie est née au lycée.
Vraiment, mes trois années de lycée, ça a été mes trois années où je me suis redécouvert. Parce que c'est vrai que même petit, j'étais engagé, que je suivais des associations, je suivais ce qu'elles faisaient. Mais j'ai jamais vraiment eu le courage, eu la force d'aller vers une association, d'y adhérer, de faire des manifs. Alors que en l'année de terminale, je suis fiché auprès du rectorat parce que j'ai organisé au total 58 manifestations devant le rectorat et devant mon établissement. Donc j'allais voir les camarades à Brochier dans mon lycée. À chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas bien, je leur disais bon bah on a plus de rouleau de papier toilette, on veut plus nous en mettre, allez on se met en manif devant la grille du lycée et tant qu'on n'a pas ça, on n'y retourne pas. Au début je sentais que mes camarades se moquaient un peu de moi, ils disaient oui, il a des délires chelous et tout ça. Et donc lors du dernier conseil d'administration de mon lycée, j'ai fait un petit speech pour dire au revoir à tout le monde et désolé de vous avoir cassé les pieds. Et donc ma proviseure est venue vers moi me disant « Ouf, j'ai dit pourquoi ?» Elle m'a dit « L'an prochain, il n'y aura plus Amine pour organiser les manifs, pour nous déranger comme tu le faisais. »
Est-ce qu'il y a eu d'autres enseignants qui ont marqué ta vie plus, de façon plus positive ?
Oui, bien sûr. Notamment mes deux dernières enseignantes, celle de terminale en français et histoire, Madame Roch. Et c'est la première qui nous dit à chaque fois qu'elle croit en nous, qu'elle croit aux élèves qui sont issus du lycée professionnel. Donc bon, on va pas se mentir, dans ma classe, il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle Laetitia. Le reste, ils sont tous issus de l'immigration, issus des quartiers nord. Et elle croit vraiment en nous. Et puis c'est elle qui m'a appris un peu à ne jamais me taire et que dès qu'on dit quelque chose et qu'on voit que ça fait écho et qu'on voit que les autres personnes commencent à vouloir nous mettre des bâtons dans les roues, c'est qu'on a raison et qu'il faut continuer et qu'il faut justement toujours prendre le temps de bien lire, de réfléchir, de penser par soi-même. Et puis il y a eu notre enseignante avec qui je suis toujours en contact, et c'est l'enseignante que j'ai vue le 29 décembre avec qui j'étais le jour de la mort de mon grand frère. Donc c'est Madame Amsili, ma prof principale pendant 3 ans. Dès le premier jour en seconde, elle m'a vue, elle m'a dit « Moi, je sais que tu iras très très loin et je crois en toi, donc je veux te donner des cours en plus si tu en as besoin. » Donc là, j'ai accepté le dernier vœu que j'avais formulé, c'est-à-dire la prépa ECT. Donc c'est une classe préparatoire sur 3 ans qui est dédiée justement au lycée professionnel. Et puis après ça, je souhaiterais demander l'ENA. Bon, ça s'appelle plus l'ENA, mais j'appellerai ça l'ENA jusqu'à la fin des temps. Et j'ai vu qu'avec la nouvelle réforme, ils voulaient inclure des jeunes de quartier nord et ajouter un peu de diversité. Donc j'espère que je pourrai y accéder sur ces critères-là. Et justement, le fait que les personnes voient un jeune qui est né dans un quartier, qui a perdu son frère, qui a connu un peu parfois la pauvreté, qui a connu le métro tous les matins pour aller jusqu'à la Timone de Frévalon, revenir tous les soirs, ben, c'est juste leur dire qu'en fait, qui qu'on soit et d'où qu'on vienne, on peut s'appeler Amine, on peut s'appeler Laetitia, on peut s'appeler Nicolas, on peut s'appeler Kader, Mourad, et on peut être citoyen français et faire de la politique, et de la politique au sens propre, c'est-à-dire aider son prochain, se souvenir d'où on vient, parce que c'est très très important, se souvenir du vécu qu'on a, se souvenir de notre histoire.
Ton engagement, c'est aussi une forme d'hommage à ton frère ?
Oui, ma lutte, c'est un peu un hommage pour lui et surtout pour toutes les autres victimes, parce que aujourd'hui, enfin le 29, c'était Brahim, c'était Reda, mais avant c'était d'autres personnes, et puis après il y en a eu encore. Et toutes ces personnes, elles ont tout un point commun, c'est que malheureusement elles étaient là où il fallait pas, malheureusement elles sont nées là où il fallait pas, et je pense que toutes ces luttes et tous ces combats, oui, c'est en quelque sorte un hommage à lui et Brahim, Reda et les autres.
Une semaine dans leur vie, l'intégralité du feuilleton est à réécouter sur franceinter.fr. Tous les épisodes également disponibles en podcast sur les bonnes plateformes. Il était signé ce feuilleton Mathilde Vinceneux, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, question pour beaucoup de diplomates. Peut-on reconnaître un pouvoir taliban qui ne semble pas franchement tenté par le compromis? Et à Kaboul, une ambassade de France rouverte, par exemple, pourrait-elle éventuellement avoir un rôle singulier?
Il faut remonter loin en arrière pour expliquer la relation spéciale que la France et l'Afghanistan ont eue. 19, l'émir Amanullah se proclame roi d'un pays indépendant qu'il entend arracher à la tutelle de l'Empire anglais des Indes, et pour son avènement, il érige un monument qui figure des lions britanniques enchaînés. Dès 21, les soviétiques, déjà, alors qu'ils sont à peine installés au pouvoir, accordent de suite une protection toute spéciale à Kaboul. La trouvant vite un peu encombrante, Amanullah cherche des contrepoids et il en trouve un en France. C'est à ce moment qu'est esquissée l'idée d'un lycée français, Estéclal, où seront élevés les souverains successifs du pays et également le commandant Massoud, assassiné il y a 20 ans précisément. À l'abri des hauts murs des demeures nobles de Kaboul, les jeunes femmes dévoilées recevront désormais leurs hôtes dans un français parfait. L'an prochain, une exposition célébrera à Guimet, à Paris, le centenaire de la DAFA, la délégation française à l'archéologie en Afghanistan, créée à cette époque, 22. Elle a piloté quantité de projets dans le pays. Alors maintenir le lycée, son symétrique féminin, préserver la DAFA, aider les ONG d'origine française, ce serait autant de justifications pour une éventuelle continuité dans les relations diplomatiques.
Et être fidèle à la relation spéciale suppose aussi de porter une attention vigilante à la politique d'asile en France.
Oui, parce que la puissance mystérieuse de l'Afghanistan a attiré de nombreux voyageurs français qui ont circulé dans un émerveillement constant. Combien de nos aînés ont lu avec passion Les Cavaliers de Joseph Kessel? Quelques-uns se sont même engagés dans la lutte armée contre les soviétiques, longuement ou par intermittence. Un des héros de la droite française était alors Jean-François Degnaud, qui effectua nombre de missions clandestines en Afghanistan. À cette haute époque, notre pays avait la réputation d'être au monde celui qui était le plus ému par le drame afghan. Mais enfin, une réputation, il suffit de quelques mois d'indifférence pour la perdre.
La relation spéciale a aussi été redoublée par la participation jusqu'à Noël 2012 d'un bataillon français à l'intérieur des forces alliées en Afghanistan.
Et plusieurs officiers ont écrit des livres sur le sujet, là encore, effet afghan. Jean Michelin, alors capitaine, raconte qu'avant le départ des hommes, on se contentait généralement de faire venir devant eux un expert qui dissertait, comme je viens de le faire, sur l'histoire du pays et les gars roupillaient. Mais Michelin avait eu l'idée d'inviter Bernard. Bernard s'était engagé aux côtés des Moudjahidines. Il avait retenu l'attention de nos jeunes recrues, surtout quand il avait montré une diapo d'un Afghan bruni, la barbe mal taillée, scrutant l'horizon C'était moi, avait-il dit, à 19 ans. C'est pas rien, un pays qui suscite de telles passions. Mais hélas, pendant leur court séjour, les Français ont eu peu de contact avec les Afghans. La doctrine, c'était de se tenir à distance de toute position ethnique ou religieuse. Les Afghans se souviendront-ils de cette neutralité qui a peut-être pour eux confiné à l'insignifiance? Quant aux vétérans de l'armée française qui en donnaient beaucoup d'eux-mêmes, leur chef de corps leur répète aujourd'hui qu'ils n'ont pas combattu pour l'Afghanistan, mais pour la France en Afghanistan. La France en Afghanistan, qu'est-ce que ça peut bien être demain?
Jean Lebrun, le vif de l'histoire et le samedi Intelligence Service à 18h. Autour de qui demain?
Averroès, le philosophe arabe qui a introduit au XIIe siècle la rationalité en Europe.
Merci monsieur. La Terre au carré, bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
On se retrouve au club comme chaque vendredi.
Et oui, on parlera volcans sous-marins, dragons de Komodo et grandes écoles qui virent écolo.
À tout de suite.